Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Né en 1887, mort en 1976, René Cassin repose au Panthéon depuis l'année du centenaire de sa naissance. Prix Nobel de la paix en 68 pour son rôle majeur dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48 et l'ensemble de son action en faveur de ces droits, René Cassin fut bien l'un des Français de l'histoire du XXe siècle envers lesquels la patrie peut se montrer reconnaissante. Un Français libre, condamné à mort par Vichy, qui avait rejoint le général de Gaulle dès juin 40, dont tous les combats, à chacun des temps de sa vie, auront témoigné du prix qu'il accordait à la justice et à la liberté. En 1983, dans un documentaire du Vendredi, Marc Agy retraçait pour les auditeurs de France Culture les grandes étapes de l'existence de René Cassin et proposait une réflexion en profondeur sur le sens de ses engagements et de son action, avec notamment les témoignages de Madame René Cassin, Michel Debray, Edgar Faure, Daniel Mayer, Gaston Monnerville, Henri Noguer et René Pleven. Avec la voix de René Cassin et des extraits de ses textes lus par les comédiens Maurice Chevitte et Didier Conti. Documentaire du Vendredi, René Cassin, fantassin des droits de l'homme, diffusé la première fois le 7 janvier 1983 sur France Culture.
René Cassin, fantassin des droits de l'homme, une émission de Marc Agy.
L'heure est venue pour toi, peuple de France, de répondre tout entier à l'appel du Conseil national de la résistance. Ce n'est pas en attendant la victoire, c'est en la gagnant toi-même que tu retrouves progressivement ta grandeur et le respect des autres peuples, l'accueil fait par les foules et les chefs des nations amies de l'Amérique, aux premiers résistants de France, n'eût pas été aussi chaleureux si la France n'avait été elle-même résistante.
La mauvaise qualité technique de cet enregistrement s'explique parce que c'est une émission qui a été captée depuis le territoire français en juin 1944, alors que Cassin était encore à Alger. Et ça donne d'ailleurs une idée des émissions que pendant toute la guerre, on a entendues venant de Londres. Cassin prenait la parole très très souvent pour raconter ce qui se passait à la France libre. On a retrouvé aussi un texte enregistré en 1946, où Cassin explique comment il a été reçu par De Gaulle et ce que De Gaulle lui a demandé.
Il m'a dit, je n'ai pas pu former de comité national parce qu'aucun homme politique, aucun général, aucun ambassadeur ne m'a rejoint. Depuis hier, Churchill m'a reconnu tout seul comme chef des Français libres qui continueraient le combat. Je voudrais organiser une petite armée et avoir à échanger avec le Premier ministre de Grande-Bretagne les bases, un texte qui fournisse la base de notre action. Je lui ai alors demandé, général, notre entreprise n'a point de précédent, mais je vous préparerai le traité que vous me demandez. Je ne vous demande qu'une seule instruction. Nous ne sommes pas une légion étrangère au service de notre pays. Nous sommes bien l'armée française. Réponse, nous sommes la France.
On ne pouvait pas imaginer une arrivée plus opportune d'un juriste, et d'un juriste comme René Cassin, que le moment où il a débarqué à Londres et où il s'est mis immédiatement à la disposition du général de Gaulle.
René Pleven.
Le premier problème que devait régler le général de Gaulle était naturellement celui de nos relations, de ses relations à lui, de nos relations avec le gouvernement britannique, qui qui acceptait d'accorder son hospitalité au général et aux Français libres.
Le général Simon va dire le communiqué officiel annonçant la création de la France libre.
Le gouvernement de Sa Majesté reconnaît le général de Gaulle comme le chef en ce pays de tous les Français libres qui, où qu'ils soient, se rallient à lui pour soutenir la cause alliée.
Dès le 1er juillet, nous avons proposé à Churchill un accord réaffirmant le caractère réciproque de l'alliance franco-britannique et servant de base internationale à la constitution de nos forces. L'unité de l'Empire français dans la fidélité à la France devait être ainsi protégée contre tout démembrement. L'organisation du Conseil de défense de l'Empire, dont les membres étaient dispersés sur 4 continents, fut dès le 30 juillet notre préoccupation. Il fallait enfin attester aux yeux du monde que la France ne se laisserait pas nazifier, qu'elle ne renierait pas et les principes des droits de l'homme qui ont fait sa grandeur et la République à laquelle son peuple restait attaché dans la tourmente. Aussi, bien avant les déclarations organiques par lesquelles le général de Gaulle s'est engagé en notre nom à respecter les lois de la République et à restaurer les libertés françaises, nous, gérants spontanés des affaires de la France, nous avons quotidiennement rendu compte par la radio de notre action à la nation enchaînée et nous avons tenu à célébrer dans Londres le 14 juillet, fête nationale, un homme décidé à détruire cette Bastille hitlérienne et ces murs de l'Atlantique qui nous séparaient de nos frères.
La démarche politique de René Cassin n'était pas la démarche politique du général de Gaulle. Je veux parler de leur jeunesse respective.
Michel Debré.
Ils se sont retrouvés à Londres. Et je puis témoigner de l'affection profonde que le général de Gaulle avait pour René Cassin. Et aussi d'une sorte de respect également affectueux que René Cassin avait pour le général. Pour relier, me semble-t-il, cette caractéristique très particulière du Cassin international défenseur des droits de l'homme, avec le Cassin tel que je l'ai connu, tel qu'avec lui j'ai eu de longues conversations, je vous dirais que le mot « patrie » résume ce lien, en ce sens que les droits de l'homme, c'est à bien des égards comme d'abord la liberté. Et la liberté pour un homme, c'est de vivre dans une patrie elle-même libre. Si bien que le combat qui avait été le combat de Cassin, par exemple, contre le nazisme, s'est trouvé par lui-même identifié avec le combat pour la libération de la patrie française. Et il n'a jamais, je crois, dans son cœur, divisé, à juste titre, il ne l'a jamais fait, la défense de l'idée de patrie avec la défense de la liberté et la promotion des droits de l'homme.
Mais finalement, moi, il me semble que la France, c'est un pays comme les autres. Alors pourquoi est-ce qu'on veut toujours lui donner un rôle particulier à jouer ?
Peut-être que la France est un pays comme les autres, mais l'image de la France est différente, en ce sens que, pour beaucoup, la France représente le pays des droits de l'homme. Et Cassin donnait ce rôle à la France de défenseur privilégié des droits de l'homme. Il avait une certaine idée de la France universelle, qui avait un message à porter au monde.
Et la grandeur de notre pays, qui trop souvent est oubliée au spectacle de misère matérielle ou de revendications quelquefois un peu aiguë, cette grandeur apparaît encore mieux, soit lorsque l'on a le recul du temps, soit lorsque, comme cela a été mon cas, on a plus souvent le recul de l'espace qui permet de mieux mesurer la place de notre pays dans le mouvement des idées.
Dès 1923, il écrit un texte dans lequel il montre que les fils de beaucoup de nations sont venus tout seuls prendre la défense de la France et se battre aux côtés des soldats français.
Nous avons pensé que la France, en plus de ses forces matérielles, en plus de nos poitrines que nous offririons encore si notre sol était violé, avait une force morale unique parmi les nations. La France n'est pas une nation comme les autres. Les enfants de 26 pays sont venus spontanément dans les rangs français dès 1914 pour lutter contre nos agresseurs. Pourquoi tant d'hommes qui n'étaient pas de notre pays sont-ils venus, sans obligation de leur part, offrir leur poitrine à la France? C'est parce que nous représentons, depuis des siècles, un idéal de liberté, d'indépendance, d'humanité, qui fait qu'aujourd'hui, plus exsangues que d'autres, nous sommes plus pacifiques.
Mais Cassin lui-même, d'où venait-il? Il était né où exactement?
Eh bien, c'est un Niçois. Cassin est un grand méditerranéen. Méditerranéen parce que sa famille paternelle était niçoise, mais aussi il avait des origines d'un peu tous les côtés.
Une partie de la famille venait de la frontière d'Italie.
Hélène Berthoz, nièce de René Cassin.
Une autre de la frontière d'Espagne, et les origines, d'autre part, étaient alsaciennes.
Cassin a profité du prix Nobel de littérature qui avait été donné à Albert Camus pour faire un discours où, justement, il montre l'importance de la civilisation méditerranéenne à laquelle il était très, très attaché.
Mais enfin, il y a des moments où il ne faut pas se renier soi-même. Cette civilisation méditerranéenne, c'est elle qui a dégagé la dignité de l'homme. C'est la Méditerranée qui a été le berceau du droit. Qu'il s'agisse de la Palestine, qui deux fois par le message juif et le message chrétien, ou par la Grèce, ou par Rome, qu'il s'agisse des peuples, des races les plus diverses, et des confessions les plus diverses qui se sont côtoyées et confondues sur les bords de la Méditerranée. C'est là que pendant des siècles a été le foyer spirituel de l'humanité et nous n'avons pas le droit de nous empêcher d'être fiers, de penser que cette fois encore, la Méditerranée a été aussi à l'honneur à Stockholm, dans le pays des brumes, dans le pays de la civilisation occidentale.
Mais le fait d'être juif, ça ne l'a pas un peu gêné pour se ranger auprès de Gaulle et pour aller lutter avec De Gaulle?
Ah ben, il a demandé à De Gaulle directement en arrivant à Londres si le général s'ennuyait d'avoir un juif auprès de lui. Et De Gaulle l'a rassuré tout de suite. Et d'ailleurs, Cassin avait été très très courageux puisque très vite il avait dit son nom à l'antenne dans les émissions de la BBC. Mais Cassin n'était pas un juif honteux du tout, et toute sa vie, il ne s'est pas vanté d'être juif, mais il a agi comme juif, et même au moment où c'était très dangereux.
À peine arrivé au pouvoir, Hitler a déployé en grand sa méthode de terrorisme contre les juifs. J'eusse été le dernier des derniers, si dans cette période de malheur qui se prolonge cruellement, j'avais feint d'oublier une origine qui, depuis des siècles, a associé ma famille au destin de la France.
Et il a mené une action spécifiquement juive, en plus de tout ce qu'il a fait dans la résistance?
Oui, parce que il a été président de l'Alliance israélite universelle, qui est une organisation d'éducation. Et pour lui, le combat de la France, de la francité en quelque sorte, de répandre la langue française à travers toutes les communautés juives du bassin méditerranéen qui était la mission de l'Alliance, c'était en même temps enseigner la langue des droits de l'homme. Alors c'était le même combat finalement.
Immédiatement, l'Alliance a considéré qu'elle n'avait pas à défendre seulement les Israélites et que la persécution de n'importe quelle personne est un crime. Et c'est pourquoi, un an après sa création, elle a déjà pris la défense des chrétiens du Liban qui étaient massacrés par les Druzes. L'Alliance n'a jamais voulu séparer les droits de l'homme chez les Israélites des droits de l'homme de n'importe quelle race ou de n'importe quelle chose. Et je me trouve l'héritier d'une très belle tradition qui s'encadre complètement avec l'effort que j'ai accompli aux Nations Unies. C'est d'ailleurs le général de Gaulle qui, en pleine guerre, m'a conféré d'autorité la présidence de cet organisme qui était en train de périr à cause de la séparation entre Vichy et le reste du monde. Mais mes prédécesseurs, avec une prescience géniale, ont compris que cet effort abstrait ne serait rien s'il ne s'appuyait pas sur les bases les plus solides, qui est l'éducation de la jeunesse.
Oui, justement, Monsieur le Président René Cassin, je vous demandais, quel juif êtes-vous aujourd'hui?
Oh, je suis, au point de vue des rites, un très mauvais juif. Mais J'ai au moins deux choses. D'abord, je crois à la grandeur de cette œuvre qui a eu une influence considérable sur l'humanité, parce qu'après tout, le christianisme est tout de même un fils du judaïsme, mais aussi parce qu'il m'a donné l'occasion, à cause des persécutions, de défendre les persécutés juifs. Et en défendant les persécutés juifs, je n'ai jamais oublié les persécutés des autres milieux sociaux ou religieux.
Un de mes derniers souvenirs de voyage avec le président Cassin, c'était à Téhéran en 1968.
Jules Brunschvicg.
Il y avait une conférence contre l'intolérance et M. Cassin a été horriblement malheureux de voir quelle était la tournure que prenaient ces conférences internationales qui, au lieu de promouvoir les bonnes relations entre êtres humains, devenaient des forums où la seule préoccupation paraissait être de condamner Israël.
Ce qui m'avait toujours frappé, c'est dans cette période douloureuse des conflits que connaissait le Moyen-Orient.
Le bâtonnier Pétiti.
Notamment après la première guerre des six jours. Alors que, généralement, les participants de l'un ou l'autre bord, et en particulier les participants arabes ou musulmans, se refusaient absolument à toute cohabitation avec des juristes israéliens ou avec des juristes soutenant la cause israélienne, dès que René Cassin apparaissait à l'une des réunions de ce colloque, à ce moment-là, le dialogue devenait possible.
Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas eu, au moment de la guerre des six jours, une opposition entre Cassin et De Gaulle?
Oui, plus qu'une opposition, une brouille même, puisque Cassin a gardé ses positions dans cette affaire. Il n'était pas du tout d'accord avec le changement de politique de la France, mais Cassin avait tout à fait le courage de ses opinions.
Le président Cassin n'a jamais hésité à faire passer ses convictions avant les facilités de la gentillesse politique. Lorsque le général de Gaulle a fait passer la réforme qui a conduit à l'élection du président de la République au suffrage universel, le président Cassin était contre et il n'a pas hésité à le dire. De même, lorsque la politique française vis-à-vis d'Israël a tourné, il n'a pas hésité non plus à manifester son étonnement d'abord, ses regrets ensuite et finalement son amertume.
Mais c'est en tout cas à René Cassin, vice-président du Conseil d'État, qu'échoit l'honneur de proclamer l'élection de Charles de Gaulle à la présidence de la République française et de la communauté.
Proclamation des résultats du scrutin du 21 décembre 1958 pour l'élection du président de la République, président de la communauté. La commission constitutionnelle provisoire, considérant que les résultats du scrutin du 21 décembre 1958, consignés au tableau annexé à la présente proclamation, et qui n'ont donné lieu à aucune réclamation ni recours régulièrement présenté, ont été définitivement arrêtés ainsi qu'il suit. Électeurs inscrits 81 764, votants 81 290, suffrages exprimés 79 471, suffrages obtenus par le général Charles de Gaulle 62 394. Par M. Georges Maran, 10 355. Par M. Albert Châtelet, 6 721. Qu'ainsi, le général Charles de Gaulle a recueilli un nombre de suffrages supérieur à la majorité absolue des suffrages exprimés, requise pour être proclamé élu au premier tour de scrutin. En conséquence, proclame Charles de Gaulle élu président de la République, président de la communauté. Fait à Paris, au siège de la Commission constitutionnelle provisoire, le 8 janvier 1959.
Dès 1919, il a mené un combat pour les droits de la femme.
La femme n'est peut-être pas apte, elle, la créatrice, aux travaux de la guerre. Mais de sa nature, elle n'est ni moins intelligente, ni moins appliquée, ni moins apte que l'homme à faire valoir ses droits. En réalité, ce qu'il faut retenir du principe d'égalité, c'est la suppression de la prééminence a priori du sexe masculin.
Il n'a jamais accepté qu'il pût exister des esprits assez attardés pour appliquer la discrimination entre les êtres humains.
Président Monnerville.
Discrimination raciale, discrimination religieuse, discrimination philosophique, il les combattait toutes, sans exception. Il a été très efficace pour obtenir le vote de la loi capitale du 1er juillet 1972, que vous connaissez, qui réprime non seulement les actes de discrimination, mais, innovation due en grande partie à lui, innovation considérable dans le droit pénal français, l'incitation à toutes les formes de discrimination.
Madame René Cassin.
D'abord, comment l'homme doit-il user de ses pouvoirs, non pour l'oppression, la mort et l'iniquité, mais pour la sauvegarde de tous et de chacun. Ce chacun est l'inflexible souci, l'intransigeante revendication qui a jeté René Cassin dans l'action, afin que jamais le tous n'escamote le chacun.
Pour René Cassin, la paix, c'est quelque chose qui se préserve. Et donc, quand la bête nazie a commencé à bouger, Cassin a immédiatement crié gare. Dès 1933, il était un des rares à prendre la parole dans les meetings, à écrire des textes, à faire des annonces à la TSF pour dénoncer ce qui se passait de l'autre côté du Rhin.
Et la non-réaction de la France sur l'invasion de la Rhénanie démilitarisée, alors que cette sécurité sur la Rhénanie avait été l'objectif et de tant d'attaques où tant de gens sont morts et de tant d'inquiétudes diplomatiques entre 20 et 30 pour suppléer à l'engagement américain, de voir abandonner ça sans résistance. J'étais fou de douleur.
Je condamne radicalement le pacifisme pur et simple, idéologique et théorique, qui fait en réalité le jeu des peuples querelleurs. À ce point de vue, la doctrine de la non-violence de Gandhi est difficilement admissible sur un plan mondial, quand on connaît réellement l'homme et l'humanité. Elle favoriserait les monstres. En 1936, vis-à-vis d'Hitler, c'est en n'intervenant pas à temps, et dans des cas où cette intervention eût été légitime, possible et peu coûteuse, qu'on l'a incité à déclencher la guerre.
La conception de la paix, c'est la fermeté et non pas la mollesse. Oh, la paix n'est pas un état de béatitude statique. C'est le fait pour une nation ou pour un ensemble de nations, d'évoluer sans tension guerrière pendant le maximum d'années. Je ne suis pas du tout de ceux qui croient que quand on aura signé un traité de paix, les gens vont se regarder entre eux. Ça, c'est réservé au paradis. Les gens, à ce moment-là, ont des loisirs. Mais pour les hommes qui vivent, la paix, c'est un état de mouvement, mais un état de mouvement sans que des vies d'hommes soient détruites. Et je dois dire que c'est un moyen différent de résoudre les inévitables conflits créés par la vie. Arrêter la vie est une chimère. Ce qu'il faut, c'est par la diminution de l'ignorance, par la compréhension du véritable intérêt, à la fois personnel et collectif,
persuader les hommes qui n'ont pas gagné à faire la guerre.
René Cassin a été un combattant de la guerre de 14. Il a été blessé dans les premiers mois. Il a reçu 3 balles dans le corps. Et donc, on peut dire qu'il a souffert dans sa chair la violence de la guerre.
Modeste combattant du 301e régiment d'infanterie, j'ai vu les obus lourds et les shrapnels s'abattre sur nos sections parmi les moissons ou aux lisières des bois et frapper de préférence les chefs debout. J'ai encore présentes à l'esprit ces terribles nuits d'offensive corps à corps, illuminées par les incendies de nos villages.
Et c'est la guerre qui a marqué profondément mon existence. Parce qu'en 1914, à la veille du moment où j'allais affronter le dernier concours pour être professeur, j'ai été, comme les gens de ma génération, confronté avec la guerre. Et j'ai été relativement privilégié, puisqu'ayant été très gravement blessé, j'ai été pendant longtemps à l'hôpital et par conséquent, je n'ai plus vécu comme les autres les nuits de tranchées et de froid et de front. Mais ce fait que je suis revenu à l'arrière un peu plus tôt que les autres m'a amené à voir les familles des morts et les hommes qui sortaient de l'hôpital sans pension, avec des indemnités quotidiennes dérisoires. Et je me suis toujours posé le problème, comment ces gens vont-ils reprendre une activité s'ils ont été ou très gravement blessés ou moyennement blessés. Et c'est donc le combat pour la justice dû à ces familles et à ces hommes blessés au service de tous, qui a fait vibrer en moi la corde sociale et humaine. Voilà la base.
Et c'est à Aix, où un jour, et tout à fait par hasard,
Jacques de Rivière,
il passe devant un petit magasin et il entend des gens qui discutent des problèmes des mutilés. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte que lui-même est un mutilé, et il entre, il voit là des mutilés, des veuves, qui exposent leurs problèmes, et il comprend immédiatement que sa compétence d'homme de loi va pouvoir leur venir en secours.
Nous, les survivants, nous avions justement envers les familles de ceux qui étaient tombés une mission impérative, c'était de tout faire pour que leur sacrifice n'ait pas été inutile. Et je dois dire qu'après avoir travaillé pour les lois de pension et pour la sauvegarde des intérêts matériels élémentaires de ces familles, j'ai été un des premiers à considérer que le devoir de nos associations n'était pas seulement de défendre ces intérêts matériels, mais justement de projeter sur l'avenir de l'Europe et de la France cette idée d'une paix internationale juste et bien organisé. C'est dans cet esprit que nous avons soutenu les efforts de Léon Bourgeois, d'Herriot et de Briand, et ceux aussi très courageux de Paul Boncour, pour que la Société des Nations ne soit pas une simple parlotte ou une façade, mais qu'elle représentât une alliance potentielle contre toute agression.
Un mauvais génie semble planer sur cette conférence générale du désarmement. Après des années d'attente vaine, les travaux préparatoires patiemment élaborés se sont trouvés dépassés par les événements. Les nations délibèrent à Genève, depuis 16 mois, sous le signe de la violence extérieure, conflit sino-japonais, de la catastrophe économique, chute des monnaies, arrêt du commerce extérieur, des trafics d'armes d'Hirtenberg, et des dictatures nationalistes, Hitler et maître de l'Allemagne voisine. Il faut dénoncer les folies commises contre l'humanité qui ramènent celle-ci aux pires époques du Moyen-Âge, redonner aux peuples dressés les uns contre les autres le sentiment de leur devoir de maîtrise sur eux-mêmes et de travail en commun, sans lesquels il n'y a pas de salut possible.
Et je puis vraiment dire que le peuple de France a réalisé très tôt, avant même qu'il subisse les douleurs de l'occupation et de l'oppression, que le tragique conflit ouvert en 1933 s'appellerait à tout jamais la guerre des droits de l'homme.
Au fond, ce qu'il faut dire, c'est que pour René Cassin, lutter contre le nazisme, c'est lutter pour les droits de l'homme. C'est-à-dire, fonder la démocratie, c'est lutter contre Hitler. C'est la même chose.
Nous avons entendu en 1933, à l'Assemblée de la Société des Nations, l'argument tiré de la souveraineté absolue des États. Quand Hitler et ses séides, traduits devant la conscience universelle à Genève parce qu'ils massacraient leurs propres compatriotes, ont été pressés de discuter. Lorsque quittant le terrain étroit des traités des minorités, la Communauté des Nations, alors organisée sous forme de Société des Nations, a osé parler des droits de l'homme, de ces droits dont déjà depuis pas mal de temps les pays civilisés se faisaient les défenseurs, l'Allemagne hitlérienne répondit « Charbonnier est maître chez lui, vous n'avez pas à connaître ce que je fais de mes propres compatriotes. » Ainsi, le premier grand crime est resté impuni. Le crime contre les droits de l'homme allemand est devenu le crime contre les droits des hommes des autres nations, et peu après, le crime suprême de la guerre universelle.
J'ai un souvenir du président Cassin antérieur à la dernière guerre. Cela se passait en 1938, si je ne me trompe, une grande manifestation de protestation contre ce qui se passait en Allemagne a été tenue dans l'ancien hôtel du premier baron James Rothschild, rue Lafitte, où un grand nombre de personnalités éminentes sont venues dénoncer ce qui se passait en Allemagne. Et on a vu apparaître un jeune professeur à la barbe noire, avec une petite pointe d'accent méridional, et c'était le président Cassin qui manifestait avec netteté, avec clarté, son indignation devant ce qui se passait en Allemagne.
René Cassin était allé à Munich, dans la délégation de Daladier, et il représentait les anciens combattants. Mais il n'était pas du tout d'accord avec la signature des accords de Munich.
J'ai été anti-Munich. Chamberlain était bien ingénu lorsqu'il déclarait « J'ai assuré la paix pour 100 ans ». Au retour de la conférence, Daladier, encouragé par l'attitude générale, a osé aller avec Georges Bonnet à l'Étoile, saluer le soldat inconnu. Quand on m'a demandé si j'irais à la cérémonie, j'ai répondu que je refusais de m'y associer. Et c'est tout seul que je suis allé m'incliner à l'Étoile pour demander pardon au poilu de ce qu'on avait fait de son sacrifice.
C'est vrai que la souveraineté protège le citoyen, mais à condition que ce soit dans une démocratie. Si les pays sont souverains et qu'ils sont totalitaires, alors évidemment, les citoyens ne sont plus protégés. C'est le seul cas où l'on pourrait admettre, et Cassin l'admettait et même le proclamait, où l'on pourrait admettre qu'il y ait une ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. C'est lorsque les droits de l'homme sont violés.
Il faut bien reconnaître que pour la plupart des États, cette idée qu'on puisse jeter un coup d'œil sur ce qui se passe derrière leurs frontières, cette idée qu'une société internationale puisse se permettre de porter des jugements sur leur comportement, est une idée qu'ils considèrent comme inacceptable.
Professeur Rivero.
Écoutez, sans même aller très loin, n'oublions jamais que la France n'a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme qu'en 1974, sauf erreur de ma part, et alors que les organes européens de respect des droits de l'homme siégeaient à Strasbourg, chez nous, on s'est heurté pour des raisons d'ailleurs qui ont varié avec les régimes, elles n'étaient pas les mêmes sous la 4e que sous la 5e, à un refus de ratifier la Convention européenne des droits de l'homme, parce que permettre à des instances européennes de jeter un regard sur ce qui se passait à l'intérieur de nos frontières apparaissait quelque chose de difficilement acceptable. Encore faut-il ajouter que même quand nous l'avons ratifié, nous n'avons pas accepté la clause permettant le recours individuel devant la Commission européenne des droits de l'homme, et que c'est seulement l'année dernière que cette ratification pour laquelle René Cassin s'est tant battu a enfin été réalisée et que le recours individuel est maintenant admis pour les Français.
Je dois dire que, avant même ces ratifications, beaucoup de gouvernements ont essayé, pris des initiatives unilatérales pour ajuster leur législation au principe de la déclaration. Et il faut bien leur savoir gré de cette action. D'ailleurs, eux-mêmes, ils trouvent du profit, car mieux un gouvernement assoit les droits de l'homme dans son territoire, et moins il a redouté des interventions extérieures des institutions internationales ou des plaintes venant d'individus.
René Cassin considérait que le devoir premier de tout État, et c'est d'ailleurs un peu le texte même du préambule de la Déclaration universelle, le devoir premier de tout État, c'est le respect et la promotion des droits de l'homme. Et que la protection internationale n'est nécessaire que dans la mesure où l'État ne s'acquitte pas de son devoir primordial.
On ne peut pas dire que Cassin ait été l'auteur de la Déclaration universelle, mais il était le principal rédacteur. C'est dans son esprit à lui que tout a pris forme. C'est ça qui est important à dire.
Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les puissances ont ressenti le besoin de protester d'une manière positive contre les atrocités, les horreurs systématiques qui s'y étaient déroulées. Elles ont voulu proclamer, suivant l'expression même de la charte, leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité, la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes. Et ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Nous avons invité à un débat sur René Cassin et la Déclaration universelle des droits de l'homme, trois personnalités fort différentes au demeurant, Gérard Israël, le révérend Père Riquet et Daniel Mayer. René Cassin mettait sur le même plan les droits individuels et les droits collectifs.
Je suppose qu'à l'époque où il a médité, pensé, puis rédigé avec d'autres, mais inspiré essentiellement la Déclaration universelle des droits de l'homme et puis la Convention européenne, je crois qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas y avoir de contradiction, en tout cas pas d'opposition entre les droits individuels et les droits collectifs. Si vous le voulez, je prendrai un exemple. Il s'agit de comparer, si vous le permettez, l'article 1er de la déclaration de 89 à l'article 1er de la déclaration de 1948. 89, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. 1948, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Alors on a donc changé homme et on a mis êtres humains, mais ce qui me paraît essentiel, c'est que au lieu de naissent et demeurent libres et égaux en droit, c'est devenu naissent libres et égaux en dignité et en droit.
Il y a d'ailleurs quelque chose de très intéressant. C'est que le même article premier continue en disant « Ils, ces êtres humains, sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » C'est donc un droit extrêmement moderne qui est le droit de solidarité. Les hommes ont tous la même conscience, ils ont tous la même raison. La raison est universelle, comme la Déclaration des droits de l'homme. Mais le réaffirmer, ça implique précisément un devoir de solidarité. Les hommes doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ça me semble très important et un pas par rapport à la Déclaration de 89.
On va tâcher de faire ça pendant notre débat.
Mais d'autre part, il me semble que la Déclaration de 89, d'abord, et dans l'esprit aussi de celle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est pour défendre l'individu contre les excès de pouvoir de l'État.
Absolument.
Et que par conséquent, une revendication des droits des peuples qui s'exercerait aux dépens des droits de l'individu serait contraire à l'esprit des deux déclarations des droits de l'homme, celle de 89 et celle de 1948.
C'est pourquoi il fallait, dans l'esprit de Cassin, semble-t-il, que ces droits fussent respectés simultanément, en quelque sorte.
Exactement.
Mais la fraternité existe quand même dans la devise « liberté, égalité, fraternité ».
René Cassin m'a dit plus d'une fois que, personnellement, en raison de ses origines, de son état d'esprit, il aurait été heureux que la déclaration de 1948... comme celle de 1789, se réfère à l'être suprême. Mais, m'a-t-il dit, en disant que les hommes doivent se conduire les uns envers les autres dans un esprit de fraternité, c'était affirmer implicitement qu'ils sont les fils d'un même père. Et cela, il me l'a dit à plusieurs reprises, et je crois qu'il est bon de ne pas l'oublier.
Il est bon aussi de ne pas oublier que René Cassin était essentiellement humaniste, essentiellement universaliste, et je crois qu'il serait de mauvais goût qu'à propos de tel ou tel propos qu'il a pu tenir aux uns ou aux autres, on essaye de le récupérer pour un parti, pour un groupement, pour un courant d'opinion, voire pour une église ou pour la laïcité.
Il n'a jamais été dans mes intentions de le récupérer pour mon Église, mais simplement...
C'est ce que je voulais vous faire dire.
Pardon ?
C'est ce que je voulais vous faire dire.
Mais simplement montrer que, par son intention même, il n'était pas en opposition avec mon Église. Et que d'autre part, c'est une des raisons pour lesquelles mon Église a reconnu cette Déclaration universelle des droits de l'homme, alors que la déclaration de 89 s'était heurtée à une opposition du pape Pie VI, qui avait l'excuse d'ailleurs d'être mal informé sur l'esprit dans lequel cette déclaration de 89 avait été élaborée et adoptée.
Il est bien évident que Jean XXIII nous a beaucoup réconciliés, nous laïcs, avec l'Église.
C'est Jean XXIII précisément qui, dans son encyclique « Pacem in Terris », a déclaré très catégoriquement que cette Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 était le plus beau fait accompli par l'Organisation des Nations Unies.
Il y a aussi une autre idée, n'est-ce pas ? Il y a le fait que la Déclaration de 1948 fait faire un progrès tout de même à la Déclaration de 1989. Cette dernière était une Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle avait une dimension visiblement française, orientée vers la révolution en Europe, naturellement, mais essentiellement française. La déclaration de 1948 commence par dire, c'est ce que je faisais remarquer tout à l'heure, que les hommes sont égaux et qu'ils sont dotés d'une raison et d'une conscience universelle. De même, l'article 2 précise que chaque homme, quelle que soit sa race, sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion, son opinion politique, que tous les hommes se valent entre eux. Ça, c'est une nouveauté. Et c'est en cela que la déclaration est universelle. Qu'elle concerne tous les hommes et qu'elle vise, je crois, c'est dans l'esprit du président Cassin, et qu'elle vise le tiers-monde. C'est essentiel, car il n'y a pas de nos jours de réflexion sur les droits de l'homme sans orientation de pensée vers ce que représente le tiers-monde, pour lequel, en général, les droits de l'homme ne sont pas respectés, et surtout qu'on essaie d'englober dans une notion de droit des peuples, de droit collectif, de droit des sociétés, de droit des États. Et finalement, on dépasse la grande difficulté soulignée par le père Riquet dès le début, n'est-ce pas ? Les droits de l'homme sont d'abord définissables en réaction contre le pouvoir des États, contre le pouvoir des collectivités et contre le pouvoir des sociétés. Je ne détiens mes droits de l'homme qu'en réaction. C'est triste, mais c'est comme ça.
C'est-à-dire en limitation des pouvoirs abusifs de l'État, de l'État arbitre et surtout de la raison d'État, qui est, comme chacun sait, le moment où l'État perd la raison. Mais l'ajout le plus important, je crois, entre les deux déclarations, est toute cette partie inspirée des réalisations du Front populaire de 1936 en France, que sont les droits économiques, sociaux, culturels, etc., qui n'existaient pas dans des déclarations de 1789 et de 1793, essentiellement politiques.
Il y a deux droits qui prennent toute leur dimension aujourd'hui. C'est notamment le droit à la libre circulation. Naturellement, on avait prévu en 1789 que chacun pourrait s'établir dans le territoire de la République, mais là, on vise véritablement à effacer les frontières entre États et à dire que tout individu a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d'y revenir. Et puis, il y a surtout le droit au travail, qui est un droit très, très moderne, formulé en 48, mais qui est d'application, hélas, universelle et qui, aujourd'hui, prend toute sa dimension. Tout cela fait de ce texte, voyez-vous, à mon avis, un élément extrêmement moderne de notre réflexion sur les droits de l'homme.
Mais si vous me permettez une réflexion moins optimiste que les vôtres, parce que tout ce que vous dites, c'est comme si les droits étaient appliqués. Pour que la Déclaration universelle ou tout autre texte défendant les droits de l'homme soit effectivement appliqué, il faut qu'elle existe, c'est évident, c'est l'aspect juridique des textes, mais il faut qu'il y ait un courant populaire qu'il l'impose au gouvernement. Moi, j'ai été absolument effaré. J'étais à ce moment-là président de la Ligue des droits de l'homme. Tous les 5 ans qui ont suivi la Déclaration universelle, ou tous les 10 ans, c'est-à-dire en 58, en 63, en 68, il y a eu de grandes manifestations théoriques, des réunions théoriques, où il y avait la plupart du temps des fonctionnaires, des diplomates, qui venaient dire « mais tout va très bien », dans un langage d'ailleurs généralement hermétique, « tout va très bien, dans la zone 14, le paragraphe 3 de l'article 2 a été sincèrement appliqué », et il n'y avait que les représentants des organisations non gouvernementales, Fédération d'éducation nationale, Mouvement de défense de la Ligue des droits de l'homme, pour dire « mais pas du tout ». Ça ne va pas si bien que ça. Il y a encore eu tant d'exécutions dans tel pays. Il y a encore eu tant de tortures dans tel autre pays, etc. Et dans la mesure où, comme j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le dire et de l'écrire, René Cassin était un carrefour, lui, un carrefour vivant. Lui qui a été pendant très longtemps le représentant des gouvernements, du gouvernement français, à travers les vicissitudes politiques et la numérotation de nos républiques successives, il était en même temps le représentant des organisations non gouvernementales pour lesquelles il réclamait un rôle extrêmement important. Et nous ne pouvons pas négliger cet aspect de son action.
Le désir et le regret de Cassin, c'était que cette déclaration soit assortie d'une juridiction qui puisse en assurer le respect à l'égard même des États qui les violeraient. Et la Convention européenne des droits de l'homme est entrée dans cette voie puisqu'elle a créé une juridiction d'appel dont on peut souhaiter qu'elle devienne, pas celle de la Convention européenne, mais que les Nations unies adoptent une juridiction, créent une juridiction d'appel pour toutes les violations des droits de l'homme.
René Cassin désirait que la Déclaration universelle, il ne l'a pas obtenue, mais désirait que la Déclaration universelle commençât par une formule qu'il qualifiait de magnifique et qui est d'ailleurs au fronton de la Charte des Nations Unies, « Nous, peuple des Nations Unies ». Que ce fût vraiment une déclaration non seulement humaniste et universelle, mais une déclaration au nom des peuples.
Au nom des peuples.
Et cela montre alors toute la différence qu'il peut y avoir entre un gouvernement forcément pris par des égoïsmes nationaux, par des intérêts particuliers, et une organisation non gouvernementale, surtout internationale, surtout universelle, qui peut défendre tous les hommes, quels qu'ils soient.
Il y a une initiative du président Cassin qui malheureusement n'a pas été suivie des faits et qui va tout à fait dans le sens de ce que le père Riquet voulait bien nous dire il y a un instant. Pour la mise en œuvre des droits de l'homme, bon, sur le plan européen, nous avons tout de même réussi. Il y a une commission, il y a une Cour européenne des droits de l'homme, il y a le recours individuel désormais. Il y a une organisation qui concerne la vieille Europe, les 21 pays du Conseil de l'Europe. Mais pour ce qui concerne les Nations unies, c'est beaucoup plus vague, n'est-ce pas? Les mécanismes juridictionnels prévus par les pactes ne sont pas appliqués de façon suffisante. Et René Cassin avait plaidé toute sa vie pour la création d'un poste de procureur général aux droits de l'homme. C'est une idée qui, je crois, mériterait d'être lancée aujourd'hui pour rendre hommage à la mémoire de René Cassin aux environs du 10 décembre, précisément.
Mais le fonctionnement de cette institution que serait le procureur général sera qualifié par un grand nombre de gens d'utopie. Mais remarquez, en ce qui concerne l'utopie, ça ne me fait pas peur, puisque je me souviens d'un texte de Jaurès disant que le progrès humain se mesure à la condescendance des sages pour les rêveries des fous, et ajoutant « l'humanité aura accompli son destin lorsque toute sa folie aura pris la figure de la sagesse ». Alors est-ce que René Cassin était un fou ? Est-ce qu'il était un sage ? Et au surplus, aujourd'hui, n'est-il pas sage d'être fou ?
Il y a une remarque qu'on doit faire, c'est que c'est René Cassin, et c'est là le fou peut-être, c'est René Cassin qui a fait adopter le mot universel dans Déclaration universelle, parce que la déclaration de 1948 était internationale. Et quand vous disiez tout à l'heure qu'il aurait voulu qu'elle commençât par « nous, peuple des Nations Unies », je crois qu'on n'a pas voulu qu'elle commençât ainsi, mais Cassin a réussi à introduire cette idée d'universalité qui est contenue dans l'ensemble des peuples, justement, en faisant adopter le mot « universel » dans le titre même de la déclaration de 1948.
Et c'est sans doute pour faire appel de cet effort et de cette déclaration de René Cassin qu'un dictionnaire français, généralement conçu ou désigné comme le plus important, a continué, après 1948, à appeler la déclaration universelle « déclaration internationale ».
Mais tout de même, quand on connaît l'antagonisme des idéologies dont se réclament les différents pays qui siègent aux Nations Unies, on a du mal à comprendre et on se demande comment ces gens-là ont réussi à se mettre d'accord sur un texte unique.
C'était pas sans mal, effectivement. Et la Déclaration universelle est le fruit d'une espèce de compromis, précisément, entre les différentes idéologies et, en gros, entre les idéologies marxistes et les idéologies plutôt libérales. Les premières insistant sur les droits sociaux, économiques, et les secondes insistant sur les libertés. Et c'est à René Cassin que revient l'honneur d'avoir rédigé justement un article chapeau, comme il appelait, dans lequel il fait la synthèse de ces différents droits.
La rédaction de la Déclaration a été le premier acte. Et elle aurait été impossible si les représentants des divers groupes et civilisations avaient chacun voulu faire prévaloir leur idéologie particulière et leur doctrine juridique ou métaphysique. Par bonheur, tous étaient imprégnés de cet idéalisme pratique qui les a poussés à mettre en lumière les aspirations fondamentales communes à tous les êtres humains et à tracer un vaste programme d'action de caractère universel. C'est animé de cet esprit d'unité que les artisans de la Déclaration se sont limités à ériger un monument purement humain, laïque, et cependant ont pu se mettre d'accord pour affirmer la dignité de la personne humaine, l'unité de la famille humaine, et pour donner comme assise à leur nouveau monument les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, proclamés depuis la Révolution française, auxquels on a ajouté avec précision et complément la condamnation formelle pour tous les droits et libertés fondamentales de toute discrimination de sexe, de race, de langue, de religion, de conditions sociales et d'opinion. Ainsi conçue, la déclaration dénommée universelle sur la proposition de notre pays a repris l'énoncé sous une forme nouvelle des libertés classiques qui avaient été proclamées au cours des 18e et 19e siècles. Liberté corporelle, liberté de conscience, de croyance, d'expression, et d'y ajouter les droits de l'homme social, c'est-à-dire ceux d'ordre économique, culturel, social, dégagés au cours des deux derniers siècles, tels que la protection du travail, la sécurité sociale, le droit à l'instruction et à la culture, qui impliquent tous, non pas seulement des facultés pour l'individu, mais une solidarité agissant de chaque société nationale et des institutions internationales spécialisées.
Le professeur René-Jean Dupuis.
Toujours très réaliste, Cassin estimait que ses droits essentiels, ses droits fondamentaux, devait être en tout état de cause l'objet d'un respect général. Et Cassin considérait, autrement dit, que les États ne pouvaient pas opérer un choix entre les droits de l'homme et dire, pour nous, telle catégorie d'États, nous respecterons les droits économiques et sociaux seulement. D'autres auraient dit, nous respectons les droits civils et politiques, et d'autres auraient dit, nous respectons le droit au développement ou le droit à la paix. En réalité, tous les droits sont indivisibles, tel était le principe auquel René Cassin était très attaché.
Cette déclaration a eu aussi comme résultat d'être pour les gouvernements un guide, une sorte de pilote qui leur a permis d'orienter à tous respectivement certaines réformes. Une ligne de conduite d'ailleurs résulte de cette déclaration dont la naissance est presque contemporaine de la maîtrise de la puissance nucléaire. On dirait que l'homme devenu plus puissant en face de la nature a voulu se tracer à lui-même les bornes de son action, tout au moins pour diriger cette action vers le bien de l'humanité et non vers sa destruction.
Il était surtout inquiet de l'utilisation des découvertes et des inventions.
Le professeur Boris Rybak.
Il n'était pas contre la science, comment peut-on être contre la science, ça ? Mais il avait très peur de l'utilisation par des apprentis sorciers. La science a un objectif, c'est de décrire l'univers, n'est-ce pas, et en particulier, pourquoi pas, l'univers de l'homme. Et en conséquence, elle a une démarche absolument objective. Mais à partir de ses découvertes, ou dans l'aspect technique des choses, de ses inventions, certains, avec une certaine malignité, pourraient considérer qu'il serait expédient, pour leur bonne cause, d'utiliser donc ces découvertes et inventions à des fins malfaisantes. Et c'est de cela que Cassin était inquiet. Et il avait raison.
Je pense que pour René Cassin, si vous permettez, il y avait trois piliers fondamentaux qui sous-tendaient sa conception des droits de l'homme et qui restent aujourd'hui les trois piliers essentiels de la protection internationale des droits de l'homme.
Le doyen Cohen Jonathan.
Je crois que ces trois piliers peuvent porter des noms fort connus, une devise fort connue, c'est liberté, égalité, fraternité.
Je suis heureux que vous ayez cité les mots de liberté, égalité, fraternité. C'est effectivement pas seulement la devise de la France, mais pour Cassin, ça avait une importance très grande, dans la mesure où ces trois mots désignent en quelque sorte les trois dimensions de l'être humain, à savoir que la liberté désigne plutôt la dimension temporelle, historique. On est libre dans le temps.
L'égalité, c'est plutôt la dimension géopolitique. On est égaux dans l'espace. Et la fraternité, c'est la dimension spirituelle d'intercommunication des consciences, en quelque sorte. Et c'est par là qu'on voit que les droits de l'homme et un respect profond des droits de l'homme doit passer par le respect simultané de ces trois dimensions, à la fois temporelle, spatiale en quelque sorte, et inter-individuelle ou inter-spirituelle. En effet, si on néglige une seule de ces dimensions, alors on néglige complètement les droits de l'homme et on risque de donner lieu à telle ou telle idéologie de s'affirmer de façon totalitaire et parfois irréversible.
Mais est-ce que l'éducation, ça marche? Est-ce qu'on peut vraiment modifier comme ça les mentalités?
On ne peut pas dire qu'on puisse modifier de but en blanc les mentalités. Et si on pouvait le faire, eh bien, on serait nazi. Disons qu'une pédagogie à son extrême efficacité est une pédagogie qui réduit la mentalité à ce qu'on veut en faire. Non, ce qu'il faut, c'est petit à petit, par l'éducation, faire en sorte que la jeunesse prenne conscience de ses problèmes. Et d'ailleurs, on peut dire qu'effectivement, il y a un progrès. Je crois que la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, c'est un progrès par rapport à ce qui se passait du temps de la préhistoire.
Et enfin, nous avons maintenant à penser à quelque chose de plus grand que les mesures nationales ou internationales. C'est l'éducation à laquelle nous avons tenu à donner ici, ce soir, une si grande place. Les auteurs de la Déclaration universelle n'ont mis les mesures des États qu'au second plan. Elles ont mis au premier plan les mesures d'éducation et d'enseignement, parce qu'elles savent que tout est dans le cerveau des hommes et que c'est le changement progressif des mentalités des êtres humains. C'est le développement de la compréhension. C'est l'abaissement des préjugés raciaux, c'est tout cela qui, peu à peu, nous permettra de faire de la Déclaration universelle une réalité.
Et René Cassin était tellement persuadé que l'éducation était la seule manière de faire effectivement progresser la cause de l'homme dans la mentalité humaine, qu'il a, avec ce que lui a rapporté son prix Nobel de la paix, fondé l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg, qui devait, dans son esprit, être, comme il le dit, une république des universités du monde.
J'ai considéré que puisque je m'étais jeté jusqu'au bout dans le combat pour la justice due à l'homme comme un moyen de préparer la paix générale, j'avais un devoir nouveau. Et c'est pourquoi, puisque j'avais des moyens nouveaux dus au prix Nobel, je les ai jetés aussi dans le combat en créant un institut international des droits de l'homme qui n'a qu'actuellement un an et demi et qui a déjà fait un travail que beaucoup de gens reconnaissent.
Essentiellement, l'activité de l'institut est concentrée autour d'une session d'enseignement annuelle qui a lieu chaque année en juillet.
Jean-Bernard Marie.
Et qui traite de la protection internationale des droits de l'homme en général et d'un thème particulier chaque année. Outre le droit humanitaire, par exemple, l'état d'exception en 1983 et les droits de l'homme sera l'un de ces thèmes. Donc, cette session d'enseignement regroupe en général de 200 à 300 participants qui viennent en moyenne de 60 à 80 pays, ce qui montre peut-être le caractère universel et là, inutile de faire le lien avec la pensée de René Cassin, et qui constitue une activité majeure de l'Institut international des droits de l'homme.
Le doute porte sur la lenteur de nos progrès. Et l'inquiétude naît sur l'oubli par une génération de l'expérience des autres. Étant donné que des travaux comme ceux que nous faisons, même échelonnés sur 30 ans, ne progressent que lentement, si les générations qui suivent la nôtre ne comprennent pas l'héritage, ne veulent pas prendre la suite de nos efforts. Si elles oublient, alors ce sera tragique. Parce que, personnellement, la vie m'a permis d'entendre deux choses. d'entendre pourquoi Hitler a rompu avec la Société des Nations en 1933. Je vois la scène où Goebbels, au nom de son maître, a rompu parce qu'il se disait souverain absolu et déclarait que l'humanité n'avait pas de droit de regard sur ce qu'il faisait de ses socialistes ou de ses pacifistes ou de ses juifs. Et j'ai encore aussi la mémoire visuelle des promesses que les hommes d'État ont faites pendant que le peuple se battait, en leur disant « ça ne sera plus comme ça prochainement, nous ferons une charte des droits de l'homme ». Eh bien oui, après 30 ans nous l'avons faite la charte, mais elle n'est pas en vie, car les gouvernements, après avoir collectivement voté la déclaration et les conventions, ne les ont pas ratifiées. Eh bien, si les jeunes générations qui n'ont pas entendu ces deux grands événements oublient ces événements, si elles laissent aux chancelleries le droit de reprendre leurs petites aises, de dire qu'elles ont le monopole de la paix, et qu'après tout, la paix, ça ne regarde pas le pauvre bonhomme, mais seulement messieurs des bureaux. Et alors, si les peuples, et les jeunes notamment qui nous suivent, ne font pas attention à ce danger-là, tout recommencera en beaucoup plus ample. Et voilà pourquoi la fin de ma vie, je veux la vouer à ce que les peuples acquièrent la mémoire des promesses qu'on leur a faites, et la mémoire aussi des efforts qu'il faut faire pour que ces promesses soient réalisées.
Parlez-nous de René Cassin jeune. Enfin, comment était-il dans la vie quotidienne, disons ?
D'abord, c'était un homme très bien fait, très allant, très, très disposé au combat.
Louise Weiss.
Et il combattait toujours pour des idées qui me rapprochaient de lui.
Donc il avait parfaitement dominé
Il avait dominé, enfin il était très allant, on ne pouvait pas s'imaginer que c'était un homme blessé.
René Cassin avait un courage physique très grand, puisque très vite il a surmonté les douleurs de sa blessure de 14, qui était très grave, puisqu'il a reçu 3 balles explosives dans le corps, et que presque toute sa vie, il a porté un corset pour se soutenir, et personne ne s'en est jamais rendu compte.
Je voudrais vous parler de Cassin comme vice-président du Conseil d'État.
Le président Edgar Faure.
C'est-à-dire, vous ne savez pas quelle tradition on dit vice-président, c'est une manière de parler, c'était le président du Conseil d'État. Et comme président du Conseil d'État, c'était un homme d'une minutie, d'une conscience, d'une compétence extraordinaire. J'avais souvent affaire au Conseil d'État comme ministre. Le Conseil d'État examinait les textes. Et j'ai eu notamment tout l'examen par le Conseil d'État du texte de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, la fameuse loi Edgar Faure, vouée aux gémonies par tous les extrémistes et par quelques autres, mais enfin que, on ne sait pas s'il fallait la faire, mais personne n'a trouvé le moyen de la remplacer. Je me suis déplacé personnellement pour aller au Conseil d'État, ce que ne font à peu près jamais les ministres, n'est-ce pas ? Et sous la présidence du président du Conseil d'État, René Cassin, nous avons étudié la loi article par article, et je dois dire que j'ai un grand souvenir de la manière dont il m'a aidé, appuyé, quelquefois aussi orienté et conseillé.
J'ai appelé mon livre René Cassin, fantassin des droits de l'homme, parce que je crois que c'est cette image qu'on doit garder de Cassin, de celui qui n'est pas un idéologue, un doctrinaire, celui qui aurait une idée toute faite des droits de l'homme. Mais au contraire, c'était celui qui se battait sur tous les fronts, qui suivait la ligne des crêtes, justement, comme le fantassin de 1914, et qui était là, à tout moment, lorsqu'on avait besoin de lui, lorsque la justice ou les droits de l'homme étaient bafoués. Et en ce sens, il donnait une importance très très grande à la lutte que chaque citoyen peut mener au sein des associations et aussi au sein des organisations non gouvernementales. De façon que ce soit les citoyens qui fassent l'opinion publique et que cette opinion publique puisse être assez forte pour faire pression sur les États dans le sens d'une meilleure protection des droits de l'homme.
Il n'y aura pas de droit de l'homme tant que l'homme ne respectera pas, lui, les droits d'autrui et tant qu'il ne voudra pas s'associer à tous les efforts qui sont faits. Qu'il s'agisse d'organisations civiques privées, qu'il s'agisse d'organisations publiques, C'est le devoir de chaque être humain de se sentir solidaire des opprimés, de ne pas être indifférent, même si l'excès des horreurs que l'on aura vécues nous inclinait à l'être. Aucun de nous n'a le droit d'être en repos en face de l'oppression et de la misère. Aucun de nous n'a le droit de dire « les Nations Unies sont défaillantes, donc nous n'y pouvons rien ». Les Nations Unies, c'est nous tous. Car les Nations Unies sont composées de nations, et les nations sont composées de citoyens. Et en définitive, nous arrivons à ceci. Toute grande injustice commise dans un pays offense en tout lieu le droit et l'humanité.
René Cassin était un homme très très proche des hommes, évidemment, de sa famille également.
C'est envers ses neveux que joue tout au long de sa vie ce que j'appelle sa solidarité familiale. N'ayant pas eu d'enfant, il se préoccupe d'abord des trois orphelins de sa sœur Félice, et puis des enfants de sa sœur Yvonne et de son beau-frère, Henri, tous deux déportés pendant l'occupation nazie et qui ne sont jamais revenus. Pour nous tous, enfants, avant le René Cassin de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du prix Nobel de la paix, il y eut l'oncle René.
Monsieur Henri Noguer, René Cassin vous a-t-il apporté son concours au moment de l'affaire Touvier ?
Oui, j'ai été à ce moment-là fréquemment en rapport avec lui et nous avons participé ensemble à un grand meeting qui a eu lieu à l'Hôtel Moderne, je me souviens. Nous avions été scandalisés des conditions dans lesquelles le président Pompidou avait, non pas gracié Touvier puisqu'il l'avait déjà été, mais avait pris une décision lui restituant, je dis entre guillemets, ses biens. Or, nous savions parfaitement que les biens dont pouvait disposer Touvier étaient en grande partie des biens qu'il avait pris à des Israélites qui avaient subi d'effroyables conditions de détention et même dont certains avaient été fusillés. Alors, nous avons protesté et je dois dire que Cassin a montré là, il était compagnon de la Libération, combien il était resté fidèle à l'esprit de la résistance et à la volonté de s'opposer à la revenue en force des anciens collaborateurs. Aujourd'hui, il aurait encore son mot à dire.
Je crois, voyez-vous, que dans sa démarche, il y a eu effectivement un premier stade, le stade de la Déclaration universelle, qui était la détermination d'un idéal, mais que, immédiatement après, il y a eu, et Dieu sait s'il s'est battu pour y arriver, l'idée qu'une fois défini l'idéal à atteindre, il fallait tout de suite trouver un certain nombre de règles juridiques, d'institutions, pour que l'idéal passe dans le réel. Et je crois que la grande leçon qu'on peut tirer de sa pensée, c'est effectivement cette nécessité de faire que les droits de l'homme, avec un grand H, deviennent de plus en plus, et si difficile que ce soit, les droits des hommes, les droits vécus par les hommes.
René Cassin, qui est arrivé au fait des honneurs, a toujours été un homme simple et bon. Il appartenait à une génération qui considérait que le progrès était en route, que rien ne l'arrêterait. Mais tout cela venait de quoi ? Venait de ce que Cassin était un homme de cœur. Chacun pourrait vous dire les moments difficiles où l'on est allé trouver Cassin qui écoutait tout le monde. Peut-être écoutait-il trop tout le monde par sa gentillesse, mais l'image que l'on doit garder, car tout est simplifié par la mort, tout est simplifié par l'histoire, c'est que cet homme était généreux.
Il disait souvent « Je n'ai qu'une haine, celle de la haine ».
C'est peut-être ce don de l'humain, voyez-vous. Cassin aimait les gens, il avait le don de la sympathie. Il aurait pu faire un homme politique. Il n'était pas de ces grands jurisconsultes qui aiment beaucoup l'humanité et pas du tout les hommes. Il aimait l'humanité dans son ensemble et puis il aimait aussi les hommes, les brindilles, les individus. C'est ça qu'il y avait de plus remarquable chez lui. C'était l'alliance de cette affectivité avec cette supériorité intellectuelle et cette judicature morale.
Personnellement, je le dis, j'ai éprouvé une très grande fierté et aussi une grande satisfaction. Avoir été l'un de ceux qui l'ont proposé pour le prix Nobel de la paix. Et j'ai constaté l'étendue de son émotion, car c'était un homme sensible. J'ai constaté l'étendue de son émotion lorsqu'il a pris le couronnement de ses longs efforts pour l'établissement de la paix entre les hommes.
Le prix Nobel de la paix a donc été décerné à M. René Cassin.
Quelques minutes après avoir appris la bonne nouvelle, François du Sorbier a rencontré le président René Cassin.
Monsieur le professeur, la paix, pour vous, qu'est-ce que c'est ?
Oh, je ne dirais pas que c'est l'absence de guerre, comme certains prétendent. Je dirais que c'est, puisque c'est pour cela probablement qu'on m'a couronné, que c'est un état où les droits de l'homme sont d'abord connus et ensuite respectés. Et il n'y a pas de paix si les droits de l'homme ne sont pas respectés, mais réciproquement, c'est une chimère que de croire qu'on peut respecter les droits de l'homme dans un état du monde où la guerre, c'est-à-dire la négation même de l'existence de l'homme, est affirmée tous les jours.
Est-ce que vous avez le sentiment que le droit dont on parle, qui est celui de l'autodétermination, le droit de libération des peuples, est-ce que pour Cassin c'était un droit de l'homme ?
Pas exactement. Pas exactement. Pour René Cassin, il fallait être clair. Chaque fois que l'on définissait un droit, c'était un juriste. Il fallait bien en montrer quel était le titulaire. Or, le titulaire du droit à l'autodétermination, ce n'est pas l'homme individuel en tant que tel, c'est la collectivité. Donc au point de vue du classement, si vous voulez, il a toujours, à la vérité, selon moi, trouvé quelques gènes à classer le droit à l'autodétermination comme étant un droit de l'homme, mais c'était le droit d'un peuple, et en tant que droit d'un peuple, il estimait que c'était un droit fondamental.
Eh bien, ce qui me frappe, c'est qu'on veut mettre tout dans tout. La commission sociale devrait s'occuper des questions sociales. Eh bien, il y a toujours des États pour proposer qu'elles s'occupent du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, d'autres grandes questions politiques. Certes, elles sont capitales, mais il y a des organes politiques pour s'en occuper. Mais ce brouillage, ces glissements systématiques de compétences arrivent à faire des Nations Unies, et je le dis avec peine, des touche-à-tout dans certains points qui n'aboutissent pas. Je puis vous certifier qu'à l'heure actuelle, le pacte des droits de l'homme est attaqué à sa naissance par beaucoup d'intérêts ou de routines. Mais il est attaqué aussi par la confusion. On a cru qu'on ferait avancer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en le collant dans le train des droits de l'homme. Eh bien, on a bloqué le train des droits de l'homme et on n'a pas fait avancer le train du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les découvertes scientifiques comme la puissance nucléaire mettent le monde dans un état de menace évident. Mais ce n'est pas parce qu'on est sous la menace qu'il ne faut rien faire. Et j'estime qu'il faut construire le monde, c'est-à-dire diminuer les causes de guerre, enlever aux hommes le désir de la faire, non pas parce que il deviendrait meilleur, mais parce qu'il pourrait, par d'autres voies, avoir la satisfaction de ses intérêts fondamentaux.
Le juriste des droits de l'homme est un homme qui, derrière le droit dit, doit chercher le droit non dit, c'est-à-dire l'esprit qui nourrit les règles juridiques et qui permet de leur donner une interprétation dans le sens de l'humain.
Il faut voir avec quelle patience, pendant des années et des années, René Cassin a lutté pour que son propre pays ratifie la Convention européenne des droits de l'homme. C'était pour lui une espèce de blessure morale très profonde que son pays voit siéger à Strasbourg précisément la Cour européenne des droits de l'homme et qu'elle soit en même temps même que Malte et que la Turquie les seuls pays à n'avoir pas ratifié cette convention.
Je l'ai rarement vu aussi heureux que le jour où, après les débats sur la ratification de cette importante convention, l'Assemblée nationale puis le Sénat l'ayant voté à l'unanimité, le projet de loi de ratification étant admis, il a eu enfin l'espoir de son application. Je ne crois pas exagérer en disant qu'au cours de ces 20 années d'efforts, 20 années depuis 1950, l'homme de pensée qui était René Cassin avait montré les qualités de lutteur persévérant que l'ancien combattant de 1914-1918 avait révélées en luttant physiquement pour les valeurs humaines que la France représentait à ses yeux.
René Cassin avait une idée évidemment universelle des droits de l'homme, puisque au fond les droits de l'homme étaient fondés sur l'idée d'universalité pour lui. Mais je crois que vers la fin de sa vie, il était, notamment dans toute la période européenne, il était tout à fait conscient que régionalement on pouvait faire des choses et que la région était un relais important.
Oui, je crois qu'en effet, le président René Cassin montrait un certain intérêt pour la Convention européenne des droits de l'homme qui venait d'entrer en vigueur. Mais enfin, on peut dire qu'il avait tendance à la considérer comme une réalisation d'importance secondaire par rapport à l'œuvre des Nations Unies dans ce domaine.
Monsieur Marc-André Hessen.
Et je crois qu'il n'est un secret pour personne que dans les premiers temps, il avait peu d'enthousiasme, disons, pour l'activité du Conseil de l'Europe dans ce domaine. Mais petit à petit, à la suite de certaines expériences acquises à la fois dans le cadre des Nations Unies et sur le plan européen, il en était venu à bien mesurer, et à mesurer probablement mieux que beaucoup d'autres, l'importance et le caractère fondamental de cette réalisation régionale.
Mais alors, est-ce que cette réticence originelle, en quelque sorte, ne lui venait pas de ce que son propre pays n'avait pas ratifié la Convention européenne des droits de l'homme?
Peut-être. Il y avait ce côté paradoxal que René Cassin, professeur et juriste français, a pu siéger à la Cour européenne des droits de l'homme et même la présider pendant plusieurs années à une époque où son pays, la France, n'avait pas encore ratifié la Convention. Et cette période a duré très longtemps puisque René Cassin a été élu à la Cour dès 1959, date de la création de la Cour, et que la ratification a tardé encore 15 années. Et heureusement, René Cassin a vécu assez pour avoir la joie de voir enfin déposer les instruments de ratification de la Convention par le gouvernement français.
Alors on peut dire que désormais le citoyen français est libre.
Absolument, le citoyen français, comme d'ailleurs la nationalité importe peu, c'est toute personne qui estime avoir à se plaindre des autorités françaises, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère, ou même éventuellement apatride, peu importe même qu'il s'agisse d'un non-européen, toute personne estimant donc avoir à se plaindre des autorités françaises peut désormais introduire une requête devant la Commission européenne des droits de l'homme.
Cassin avait incontestablement la vocation prophétique, c'est-à-dire qu'il était capable de porter témoignage de la vérité chaque fois que l'occasion s'en présentait. Et à cet égard, il ne se préoccupait pas de savoir, ce qui est l'attitude typique du prophète, si son intervention allait plaire ou déplaire à l'auditoire qu'il avait en face de lui. Il donnait le message envers et contre tout. Il pouvait se le permettre compte tenu de son âge, mais surtout de l'autorité considérable qui s'attachait à sa personne. Il pouvait se le permettre aussi grâce à son éloquence, car c'est un point sur lequel il faut insister, Cassin parlait admirablement.
Tout à l'heure, avec la franchise qui honore une assemblée française, certains ont évoqué les grands crimes, les grandes persécutions, les grands attentats qui continuent à se perpétrer dans le monde. Et il est évident que chacun d'eux est comme un coup de poignard dans notre cœur. Tant qu'il y aura de l'injustice à l'égard d'un seul homme, nous ne pourrons pas avoir la conscience tranquille. Mais, il s'agit de savoir si c'est en gémissant ou en travaillant que nous arriverons à diminuer le nombre des injustices. Or, je crois que c'est en travaillant. Les idéologues qui, au début, pensaient à la déclaration, je n'en étais pas, ils sont mes aïeux, mais on riait d'eux. Ils n'avaient pas d'audience dans le monde. Il a fallu la guerre numéro 2, cette guerre des droits de l'homme, pour secouer les peuples et pour leur faire apercevoir que la Deuxième Guerre mondiale ne pouvait pas cesser sans qu'une protestation de la conscience universelle s'élevât. Et ce qui a fait plus encore que la force des peuples éprouvés par la guerre, c'est l'unanimité des peuples qui, même ayant échappé à la guerre, n'avaient pas échappé à la famine, à l'ignorance, à la sous-alimentation, à tous ces fléaux qui sévissent sur des nations pleines de vie, mais qui gémissent parce qu'elles ne sont pas encore suffisamment développées et organisées. C'est cela qui fait la force de la déclaration, mais c'est cela aussi qui fait la grandeur de notre voix pour l'exécution. C'est parce que moi, je suis un monsieur qui approche de la mort. Eh bien, je vais vous dire, j'ai ma place dans le tombeau de famille. Il y a encore une place pour moi. Mais je pense à l'ensemble de l'exemple. Et je me dis, au fond, je devrais dormir à côté des bouées de Jean Moulin. Ce serait un enseignement. Et d'ailleurs, je déplore que il n'y ait pas au Panthéon tous les hommes qu'il méritait.
Vous voudriez reposer au Panthéon ?
Oui, je n'ai rien à demander. Mais je me dis, la jeunesse des pays doit avoir quelques enseignements.
L'idée de conserver l'héritage moral du président Cassin a pris forme et elle aboutit le 30 décembre 1977 à la création d'une association pour la fidélité à la pensée du président René Cassin. Un de nos vœux les plus chers s'est concrétisé par la décision prise sous forme de décret de M. le Président de la République du transfert au Panthéon des cendres de René Cassin.
Il faut veiller sur les droits de l'homme contre l'hydre toujours renaissante de la haine et de l'oppression et organiser ainsi, par degrés, un monde en voie d'unification où les tensions inévitables ne troublent pas la paix. Nous pourrons quitter la vie sans regret si nous savons que les jeunes générations poursuivront notre effort humain pour la liberté et l'égalité, en un mot, pour la dignité de l'homme.
C'était René Cassin, fantassin des droits de l'homme, une émission de Marc Agy. Avec, par ordre d'entrée en onde, René Pleven, ancien garde des Sceaux, le général Simon, grand chancelier de l'Ordre de la Libération, président de l'Association pour la fidélité à la pensée de René Cassin, Michel Debré, ancien premier ministre, Hélène Berthoz, nièce de René Cassin, Jules Brunschvicg, président de l'Alliance israélite universelle, le bâtonnier Louis Petiti, juge à la Cour européenne des droits de l'homme, Gaston Ménerville, ancien président du Sénat, Madame René Cassin, Jacques de Rivière, secrétaire général de l'Union fédérale des anciens combattants, Louise Weiss, députée au Parlement européen, Jean Rivero, professeur de droit émérite à l'Université de Paris, Gérard Cohen-Jonathan, ancien doyen de la faculté de droit de Strasbourg, Daniel Mayer, ancien ministre, président de la Fédération internationale des droits de l'homme, Gérard Israël, député au Parlement européen, le révérend père Riquet, René-Jean Dupuis, professeur au Collège de France, Boris Ribac, directeur de l'Institut de phonétique, Jean-Bernard Marie, professeur à l'Institut Cassin de Strasbourg, Edgar Faure, ancien président du Conseil, président de l'Institut Cassin, Henri Noguer, président de la Ligue des droits de l'homme, Marc-André Heysen, greffier de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, et Guillaume Veil-Rénal, étudiant. Et la voix de René Cassin à plusieurs époques de sa vie. Texte de René Cassin lu par Maurice Chevitte et Didier Conti. Recherches effectuées à l'INA par Annie Saunier.
Prise de son en extérieur, René Cherrier, Fabien Leclerc, Gilbert Arnold, mixage Monique Pratt, réalisation Odile de Pontual.
Cette émission a été diffusée la première fois le 7 janvier 1983 sur France Culture.